Radio Okapi.
Il est 18h sur Radio Okapi. Bienvenue dans votre grand journal du soir. Je suis Gisèle Cage, très heureuse de vous retrouver pour vous présenter l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Merci de rester avec nous. Voici les titres. Reprise du trafic sur les Tanganyika. Ouvira respire à nouveau. L'afflux des marchandises venues de Tanzanie, de Zambie et du Tanganyika relance les marchés et redonne de l'élan à l'économie locale. Crise scolaire à Mutwanga et Nzenga. La grève s'enlise. 12 jours d'arrêt des cours alors que les enseignants exigent la libération de deux collègues arrêtés après le décès d'un élève. Ituri au cœur des tensions. Le général Antoine David Mushimba, patron de la 32e région militaire, décrypte l'urgence du désarmement, les avancées fragiles du processus de paix à Djougou et les défis qui freinent le retour durable des populations. Il est l'invité du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur Uvira. La reprise du trafic lacustre sur les lacs Tanganyika commence déjà à transformer le quotidien dans le sud Kivu. Les bateaux venus de Tanzanie, de Zambie, mais aussi de Kalemie et de Moba déversent à nouveau leur cargaison dans les marchés locaux. Résultat, une activité commerciale en pleine effervescence et une population satisfaite. Rendons-nous sur place pour comprendre comment cette dynamique redonne vie à l'économie urbaine. C'est avec Jean Kassami, notre permanent dans la région.
La farine de blé, les jus et les poissons salés qui étaient devenus rares pendant la fermeture du trafic sur les lacs Tanganyika commencent à inonder le marché. Toutefois, les opérateurs économiques se plaignent de la hausse des taxes à l'importation. Mayani Robert, importateur de stock de jus de la Tanzanie.
Nous, c'est une satisfaction parce que nous étions confinés avec la présence des rebelles. Le trafic était stoppé. Le panier ménager avait connu aussi des soucis. D'autant plus qu'on nous a payé presque tout. On a vidé nos magasins, nos dépôts. Nous demandons maintenant qu'on allège les taxes à l'importation.
La disponibilité des produits importés sur le marché d'Ouvira soulage les consommateurs. Oui, Jacques Elvin.
Les marchandises commencent maintenant à quitter à Kalemie jusqu'à Ouvira. Et nous disons grand merci parce que ces échanges commerciaux, c'est un soulagement pour la population de la ville d'Ouvira et de ses environs, même pour la population de la ville de Baraka, de la ville de Kalemie.
Les opérateurs économiques sollicitent que Ouvira soit déclarée ville sinistrée.
Et puis, changement des décors, direction le Nord Kivu, dans la cité frontalière de Kassindi-Loubiri, à 90 km de Beni. Plusieurs chantiers sont aujourd'hui à l'arrêt. En cause, l'instabilité du prix du sable, un phénomène observé depuis 2 semaines et qui paralyse les travaux de construction. Ici, chaque exploitant impose son propre tarif, loin du prix officiel fixé par le service des mines. Une situation qui inquiète la société civile qui appelle au respect strict du tarif légal et demande que les contrevenants soient poursuivis par les autorités compétentes. Pour mieux comprendre l'impact de cette flambée anarchique des prix, nous avons joint au téléphone Paul Zaidi, rapporteur de la société civile à Kassindi. Il répond aux questions de Marc Marofimbo.
Ce qui se passe est grave. Malgré la fixation officielle du prix du sable par les services de l'économie nationale, antenne de Kassindi d'une benne remplie du sable, la première qualité à 92 000 francs congolais, soit 40 dollars américains, et la deuxième qualité, que nous appelons localement majonnée, à 57 500 francs congolais, soit 25 dollars américains, sur le terrain, c'est l'anarchie totale. Les exploitants décident de continuer à vendre entre 45 dollars américains pour la première qualité et 30 dollars américains pour la deuxième qualité. Chaque exploitant fixe son propre prix. Sans respecter la décision de l'État, les chantiers sont bloqués, les coûts de construction explosent et les ménages pauvres souffrent. Construire une maison aujourd'hui à Kassindi devient un luxe. Au niveau de la société civile Force Vive, nous exigeons l'application immédiate du prix officiel du sable, des contrôles sérieux sur les sites d'exploitation et des sanctions contre les contrevenants. L'État doit assumer son autorité. Kassindi n'est pas une zone de non-droit.
De son côté, le chef du bureau des mines dans le secteur de Bassongora confirme ces irrégularités. Il assure qu'une commission d'enquête est déjà déployée sur le terrain afin de rétablir l'ordre et de faire respecter le tarif officiel. Passons maintenant à une autre actualité qui retient l'attention dans les territoires de Beni. Ce vendredi marque déjà le 12e jour d'arrêt des activités dans les écoles secondaires de Mutuanga et Nzenga dans les secteurs de Rwenzori au Nord Kivu. Les enseignants poursuivent leur mouvement de grève pour exiger la libération des deux collègues arrêtés après un incident tragique qui a coûté la vie à un élève de l'Institut Mutuanga dans la sous-division de Bulongo. Face à cette crise, la coordinatrice provinciale de l'éducation a réuni syndicats et parents d'élèves dans l'espoir de trouver une issue. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Les enseignants de Mutuanga et de Nzenga ont suspendu le cours après que leurs collègues ont été interpellés et transférés devant la justice à la suite du décès d'un élève et a subi une sanction corporelle et mort ensuite des suites d'une maladie. Ce jeudi, une délégation du syndicat des enseignants et des parents d'élèves a rencontré Priska Kamala Luanda, coordinatrice provinciale en charge de l'éducation. Elle a rassuré sur l'implication du gouvernement provincial pour résoudre cette situation.
Nous sommes résolus d'appeler les professionnels de la CRE, échanger avec eux sur les causes de la grève. Nous allons mettre en application tout ce dont nous sommes convenus. C'est une assurance que nous pouvons donner aux parents et aux professionnels de la CRE que la solution sera trouvée dans quelques heures. Vous voyez, ça fait déjà une semaine que les enfants ne sont pas à l'école. Ça veut dire que nous avons la foi à ces enseignants qui seront à même d'enseigner à ces élèves tous les temps qu'ils ont perdu à la maison. Mais aussi aux parents, nous les assurons que le gouvernement s'implique pour que les enfants reprennent le chemin de l'école.
Une séance de mise en point sur cette crise est prévue ce vendredi à Mutuanga en présence des enseignants de ces deux écoles, des représentants des élèves et des parents ainsi que des autorités locales afin d'évaluer la faisabilité d'une reprise des cours dès la semaine prochaine. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
À Kinshasa, le gouvernement enclenche une nouvelle étape dans la modernisation du secteur éducatif, la digitalisation du contrôle physique des enseignants à travers tout le pays. Lors d'une cérémonie organisée ce jeudi dans la capitale congolaise, le directeur de la DINACOP, la Direction nationale de contrôle de préparation de la paye et de maîtrise des effectifs des enseignants, s'est félicité du lancement officiel de cette réforme. De son côté, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale salue une avancée majeure vers un système éducatif plus transparent et plus performant. Les explications de Blaise Ndongala Mayanda.
Le directeur de la Direction nationale des contrôles de la préparation de la paye et de la maîtrise des effectifs des enseignants, DINACOP, explique que cette numérisation répond à plusieurs problématiques liées à la gestion des enseignants à travers le pays. Ces cadres dissertés de l'éducation nationale assurent que chaque enseignant va bénéficier d'une carte puce qui lui permettra de percevoir son salaire par la voie électronique.
Pour la paye des enseignants, elle nous amène une carte biométrique à puce et carte Visa multifonctionnelle, dans ce sens que ça va balayer plusieurs failles de la bancarisation.
Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a souligné que cette digitalisation marque une étape décisive dans la modernisation du système éducatif national.
Ce lancement constitue une réponse concrète aux engagements pris dans notre plan quinquennal 2024-2029 qui vise la modernisation du système éducatif par l'intégration des technologies de l'information et de la communication.
Selon elle, la transition du format papier vers le numérique au sein de la DINACOP répond à un impératif de bonne gouvernance. Pour la faisabilité de ces projets, Raissa Malou a remis à la DINACOP un lot de 1260 tablettes, 309 ordinateurs ainsi que des outils nécessaires grâce à l'appui du projet PERS.
En Ituri, la situation demeure tendue dans les territoires de Djougou. Depuis près de deux semaines, des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, la CRP, ont pris position dans les groupements Sumbuso, qui compte près de 70 villages, ainsi que dans une partie du groupement Zena. Ces combattants s'y sont installés après avoir été délogés du centre commercial de Boulé par les forces armées de la RDC. Face à cette avancée, les autorités coutumières ont rencontré jeudi le commandant de la 32e région militaire. Elle demande les déploiements rapides de l'armée pour sécuriser la zone et permettre enfin le retour des populations déplacées depuis 2021. Le point complet avec Isaac Remoyope.
Le groupement Sumbuso a été successivement occupé par les miliciens de la Côte des Cons en 2021, puis depuis janvier 2026 par les éléments de la CRP après l'ère des routes face au FRDC à Boulay. Conséquence, environ 63 villages sont aujourd'hui vidés de leurs habitants, installés dans différents sites et déplacés à travers les territoires des Djougou. Selon les chefs de cette entité, les populations vivent dans des conditions très précaires et les enfants n'ont plus accès à l'école depuis près de 5 ans. Lors de la rencontre tenue jeudi à Boulay avec le commandant de la 32e région militaire, les autorités coutumières ont exprimé leur lassitude face à la guerre et ont dénoncé le fait que tous les habitants de ces groupements seraient assimilés à des miliciens. Elles ont demandé au FRDC de démanteler définitivement ces groupes armés afin de faciliter les retours des déplacés originaires de ces entités. De son côté, le commandant de la 32e région militaire a instruit ses officiers, avec l'appui de l'armée ougandaise, l'UPDF et de la MONUSCO, de restaurer l'autorité de l'État dans cette zone afin de permettre à la population de reprendre une vie normale. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
À Goma, au Nord Kivu, c'est la désolation pour plus d'une centaine de familles. Depuis deux jours, elles vivent sans abri. Après un violent incendie qui a réduit en cendres une soixantaine de maisons en planches, le drame s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi au quartier Mapendo, à l'est de la ville. Selon les premières indications, tout serait parti d'une mauvaise manipulation d'un appareil électronique. Aujourd'hui, les sinistrés qui ont tout perdu lancent un appel urgent à l'aide. Élise Kavira fait le point.
Depuis ce jeudi matin, certains sinistrés ont commencé à construire des abris de fortune pour loger provisoirement leur famille. Cette initiative fait suite à l'assistance apportée par un cadre local qui a remis à chaque ménage sinistré 20 tôles et 10 sacs de ciment en guise de solidarité et de compassion face à ce drame. Les ruines laissées par le feu témoignent de la violence de l'incendie survenu aux environs de 22h, dont la nuit de mardi à mercredi. Selon les autorités locales et des témoins, plus de 300 personnes ont été affectées par cet incident. La majorité d'entre elles ont trouvé refuge à titre provisoire chez des voisins ou des proches en attendant une assistance plus conséquente. Les témoignages recueillis sur place indiquent que le feu serait parti de l'explosion soudaine de la batterie d'un appareil électroménager dans l'un des ménages. Les flammes se sont rapidement propagées aux habitations voisines, construites très proches les unes des autres. Les occupants ont réussi à sauver leur vie, mais presque tous leurs biens ont été réduits en cendres. Alertées, les équipes d'intervention du service de la protection civile ont tenté de maîtriser l'incendie.
À Kinshasa, la télé nationale consacrée à l'initiative Alerte précoce contre les risques de catastrophes en RDC s'est achevée ce jeudi avec plusieurs engagements forts. La RDC promet désormais de renforcer et de rendre pleinement opérationnel son système d'alerte précoce, tandis que les partenaires techniques s'engagent à accompagner le pays dans cette démarche ambitieuse. Un reportage de Donna Madimba rendu à l'antenne par John Tiboaboa.
L'engagement de la RDC dans cette initiative est contenu dans le rapport de l'atelier des deux jours de Kinshasa qui montre au pays les opérations à poser et les comportements de gouvernance à exécuter en permanence pour une efficacité assurée. Il s'agit notamment de la coordination des services et opérations à opérer et les finances à garantir de façon continue. Sur cette question, le ministère de l'Intérieur qui représentait la RDC a assuré la détermination du pays à aller dans ce sens désormais. Un engagement fortement salué à la fois par Kamal Kishore et Bruno le Marquis des Nations Unies qui ont insisté que seul le niveau et le nombre de vies protégées en RDC confirmeront cet engagement.
À Guémena, dans le sud Ubangi, la deuxième édition du festival culturel Bana Ubangi s'est ouverte ce vendredi 29 janvier. Un rendez-vous qui se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2026 avec un objectif clair, renforcer l'identité des populations du sud Ubangi, mettre en lumière les talents locaux et célébrer le riche patrimoine culturel de cette région du nord-ouest de la RDC. Mais derrière l'enthousiasme, plusieurs défis demeurent. Serge Linzabé, président du groupe Linzabé pour la mobilisation culturelle, la structure organisatrice, on parle, on l'écoute au micro de Jude Mystère Bilanda.
Les plus grands défis restent la mobilisation des fonds. Nous avons contacté plusieurs partenaires, mais jusqu'à présent, le festival culturel Banaou Bangui n'a pas encore trouvé un sponsor officiel pour nous appuyer afin d'organiser ces événements. C'est pourquoi je suis en train de lancer un appel toujours aux entreprises, aux sociétés commerciales et aux particuliers, tout celui qui veut nous pousser de l'avant. Comme ça, nous pouvons entrer en contact et prendre des dispositions pour bien faire les choses. Quand un fils du Kivu ou du Congo central vient danser avec nous à Guémena, nous renforçons les fibres de l'unité nationale.
Actualité internationale.
Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a déclaré ce vendredi 30 janvier persona non grata Ariel Saidman, principal représentant d'Israël dans le pays, et lui a donné 72 heures pour quitter le territoire. Dans un communiqué, Pretoria évoque une série de violations inacceptables des normes et usages diplomatiques, estimant que ces comportements constituent une atteinte directe à l'Afrique du Sud. Parmi ces violations, le gouvernement cite l'utilisation répétée des comptes officiels israéliens sur les réseaux sociaux pour publier des attaques jugées insistantes à l'égard du président Cyril Ramaphosa, ainsi que la non-communication volontaire, selon Pretoria, des visites prétendues des hauts responsables israéliens en violation du protocole diplomatique. La riposte israélienne a été immédiate. Tel Aviv a annoncé dans la foulée que la chargée d'affaires sud-africain en Israël, Sean Edward, était à son tour déclaré persona non grata avec le même délai de 72 heures pour quitter le pays.
L'invité.
En Ituri, le commandant de la 32e région militaire lance un nouvel appel aux miliciens de la CRP, celui de rejoindre sans tarder le processus de paix. Il invite également les populations de Djougou, durement éprouvées par des années de violence, à renforcer l'unité et la cohabitation pacifique. Cet appel a été formulé jeudi à Boulé lors d'une mission appuyée par la MONUSCO. Le général Antoine David Mushimba fait le point sur l'avancement du processus de paix dans les territoires de Djougou et sur les défis qui persistent. Il est l'invité d'Isaac Remoyope. Suivez.
Commandant de la 32e région militaire, bonjour. Vous venez d'effectuer une mission conjointe FARDC-MONUSCO à Boulé. Quel est l'objectif de votre visite dans cette entité qui a été le théâtre des affrontements entre l'armée et la milice CRP pendant presque un mois?
Nous sommes venus sensibiliser la population de Boulé pour qu'elle comprenne les enjeux du moment. On a parlé de la paix, on a parlé de l'unité, on a parlé de la restauration de l'autorité de l'État. C'est très important que la population aspire à cette paix. Et c'est très important que la population comprenne que chaque chose a son temps. Il est temps qu'elle ait la paix aussi pour jouir des ressources que Dieu a données à cette province. C'est très important que le peuple comprenne que sans unité, on risque de retourner toujours au même problème. Il faut qu'il y ait réellement l'unité. Il faut que les gens se pardonnent. Il faut que les gens se réconcilient. Il faut que les gens comprennent que c'est une obligation de vivre ensemble. C'est une obligation parce que personne n'a voulu être les voisins de l'autre. Et nous sommes venus pour qu'ils comprennent cela.
Et quel est le constat que vous avez fait sur place? Parce que jusque-là, la population se réserve de retourner dans leur domicile.
Moi, je suis certain. Je vous donne aussi 48 heures, vous allez voir, la population va retourner. Parce que le problème, c'était la restauration de l'autorité de l'État. Mais quand je suis là, c'est-à-dire l'État est déjà là, l'armée est déjà là, nos partenaires sont également là, nous les avons assuré la sécurité, et ils vont revenir. Je suis convaincu que, en tout cas, 48 heures, c'est trop, ils vont revenir.
Jusque-là, les activités scolaires et économiques n'ont pas encore repris. Est-ce que vous avez donné un message particulier pour que ces activités reprennent normalement?
À mon avis, c'est même un ordre. Il faut absolument que les activités ecclésiastiques commencent immédiatement. Il faut que immédiatement les élèves, les écoliers retournent sur le chemin de l'école. Il faudrait que les hommes d'affaires recommencent leurs affaires parce que je les ai assuré la sécurité. La sécurité est là, il faut que tout le monde vaque à ses propres occupations.
Certains habitants, même la société civile, ils craignent qu'il y ait encore un affrontement entre FARDC et CRP avec des effets collatéraux sur la population, mais d'autre part évoquent aussi un problème de violation des droits de l'homme par les FARDC.
Moi, je ne suis pas venu pour la guerre. Moi, je suis venu pour la paix. et même les serpents qui m'entendent, moi je suis venu pour la paix. La guerre, c'est pas bon. Nous ne pouvons pas continuer à nous massacrer nous-mêmes. Et Serpe, il est conscient de ça. Je demande à ce que Serpe puisse rejoindre la table des négociations. Parce que les autres groupes armés, nous étions avec Aarou 2 et ils ont signé. Je continue à inviter le Serpe qu'il puisse aussi rejoindre les autres. Donc, nous sommes là pour la paix et non pas pour la guerre. Et je suis prêt à recueillir quiconque viendra déposer son arme et contribuer au développement de ces territoires, de cette province en particulier et de la RDC en général. Et
par rapport à la relation civilo-militaire, est-ce que c'est au beau fixe parce qu'il y a des militaires qui commettent des exactions contre la population?
Je n'ai pas dit que les FRDC sont sains. J'ai dit qu'il y a aussi des brebis galeux. J'ai même dit qu'il y a d'autres qui sont déjà aux arrêts. Ceux qui ont commis des bévues, ceux qui ont commis des infractions, ils sont déjà aux arrêts. Les commandants secteurs les avaient arrêtés. Ils sont déjà à l'auditorat supérieur à Bounia. Et j'ai promis que s'il y a eu égarement, nous sommes venus mettre fin à ça. Et j'ai promis l'amélioration, j'ai promis la bonne collaboration, le vivre ensemble et faire de ces armées et son peuple. J'ai même parlé de vivre ensemble, armée, MONUSCO, UPDF, que nous soyons un, que eux, la population, que tous nous soyons un. Et je continue à vulgariser cela. C'est à la population de comprendre que trop c'est trop et qu'il est temps qu'ils puissent vivre en paix comme tout autre Congolais de la RDC.
Le commandant de la 32e région militaire, le général Antoine David Mushimba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Merci au général Antoine David Mushimba, commandant de la 32e région militaire, pour son intervention et ses éclairages sur le processus de paix en Ituri. Et vous venez de l'entendre, les défis restent nombreux, mais les autorités militaires disent maintenir le cap vers la stabilisation de Djougou. Merci d'avoir été avec nous pour ce journal des 18h à la coordination Jude, Mister Bilonda, à la technique et mise en onde Alain Goy et moi, Gisèle Cage, toujours ravie de partager ce rendez-vous d'information avec vous. Merci pour votre confiance et votre fidélité à Radio Okapi. Passez une très belle soirée en notre compagnie.